Donc, je disais par rapport à ce qu'on a vu là ici, je disais hors micro, par exemple, le dernier petit film qu'on a vu, c'est tout à fait intéressant, parce que si vous voulez, le message, c'est carrément, c'est comme le message d'un petit livre biblique, quoi. On croit lire un petit livre prophétique qui dit, qui parle sur la situation du monde et qui décrit, quoi. Enfin, c'est vraiment extraordinaire. Bien. Alors voilà, donc dans cette perception, donc cet appel à voir, à savoir lire, hein, effectivement, on voit aussi encore au micro, on disait oui, mais Jean Deloisy, c'est un gars intelligent qui sait décrypter, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on, peut-être pas d'une manière théorique, mais que moi, au moins dans l'écoute des gens, au moins dans l'écoute des choses, nous puissions décrypter cette fin du ciel et ensuite justement apporter l'évangile, hein, parce que bien, mais pas dire que les gens n'ont pas d'appétit. Je crois que c'est très important pour nous de découvrir cette soif des gens. Bien. La deuxième partie.
C'est pas quand même, est-ce que vous pensez que c'est quand même représentatif, parce que c'est quand même le fait d'une petite élite.
C'est une petite élite de prêtres. Si on veut, hein, qui sait le dire, ou de prophète ou de prêtre, qui sait le dire, mais qui dit la mentalité un peu de tout le monde. Hein, c'est le désenchantement. Par exemple, dans l'exposition, quand on passe avec ce désir de trouver le surhomme, un homme nouveau, des perceptions nouvelles, enfin avec tout l'aspect psychique que couvre l'ésotérisme, etc., des années 90-1910, et puis qui est complètement cassé par la guerre, avec le désenchantement du monde, bon, ben, ce sera dit dans la littérature, c'est dit dans l'art, c'est dit dans la société. Hein. Mais avec un certain décalage, c'est que chez les artistes en général, c'est dit beaucoup plus tôt, hein, à peu près contemporainement, mais beaucoup plus tôt que l'ensemble des gens le portent. Hein. Moi, j'avais compris ça un petit peu, par exemple, en lisant le petit écrit du Père Thomas sur Marie divin remède aux erreurs de notre temps qu'il a fait pour 1950. Et moi, j'ai lu ça donc en 73, 72, et je lui avais dit, mais c'est étonnant, parce que ce que vous dites en 50, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Les mots que vous dites du monde, c'est ce que moi, j'ai entendu dans mes à l'école, quoi, enfin, etc. Elle dit, oui, mais les intellectuels, ils avaient déjà les problèmes avant, quoi. Ils se sont affrontés à ces problèmes-là. Donc, je pense que les artistes disent ça.
En tout cas, moi, je suis à une session BAFA à Paris avec le père Grodet, qui fait des lectures de films. Et il avait dit que dans les films, justement, il y a un côté prophétique et que les artistes annoncent des choses, ils perçoivent des choses qu'ils annoncent à l'avance. Il parlait du Walt Disney qui avait été fait sur Merlin l'Enchanteur, je ne sais pas, Mickey qui fait avec sa baguette, qui fait monter les eaux, je ne sais pas si vous connaissez, qui fait tourner les astres.
C'est l'apprenti sorcier.
L'apprenti sorcier. Et bien, il montre que c'était juste avant la Seconde Guerre mondiale, il montre que c'était une annonce déjà des totalitarismes.
Ah, tout à fait, oui.
Pour le meilleur et pour le pire, c'est aussi à l'université, on nous disait déjà en laboratoire que les théories du gender étaient en train de se former, et sont arrivées 5 ans après.
C'est ça, tout à fait. Hein. Il y a une avance dans le milieu intellectuel, si vous voulez, vous avez une certaine précédence de quelque chose qui va arriver. Dans le cinéma, ben oui, c'est un art. Hein, c'est l'art, les intellectuels qui ont un petit peu ces fonctions dans le monde. Et donc c'est intéressant. Bon, bref. Voilà. Alors, la deuxième partie où je vais le reprendre, c'est donc le Père Lamy, essayer de comprendre ce que fait le Père Lamy en fondant la congrégation et comment la congrégation est appelée. C'est une recherche, là, c'est une étude. Hein, mais comment la congrégation peut être appelée à rentrer. Est-ce qu'elle est appelé à rentrer dans cette nouvelle législation, et est-ce que c'est quelque chose qui lui est co-naturel, ou c'est quelque chose qu'il faudrait rajouter, hein, qu'il faudrait des transformations. Alors, j'ai mis ici la congrégation étonnante fondation. En général, une fondation, c'est fait pour démultiplier une œuvre. C'est fait pour fédérer des collaborateurs, hein, pour multiplier une œuvre, par exemple l'annonce de la vérité, saint Thomas d'Aquin, avec d'autres, pour fédérer des collaborateurs, par exemple les Pères Somascos, hein, c'est un gars qui s'occupe des beaucoup de congrégations féminines, ou de charité, quelqu'un qui s'occupe des jeunes défavorisés, et puis ben, il faut en accueillir, donc il y a des collaborateurs, puis on les fédère, puis on a une manière de vivre. Ici, non. il y a comme une pure gratuité. Ce n'est pas un double en faisant la congrégation, ce n'est pas un double des oblats de Saint-François de Sales, où le père Lamy voudrait continuer l'œuvre de jeunesse qu'il a fait. Ce n'est pas une augmentation ou un recrutement, hein, pour, par exemple, il n'a pas essayé de faire quelque chose pour revivifier ou pour prolonger la société de prêtres du Sacré-Cœur à laquelle il a adhéré dans les années 20, hein, enfin, au moins après la guerre. Non, il y a quelque chose de surprenant. Il y a quelque chose de surprenant parce que ça va être quelque chose d'autre. Hein. C'est quelque chose qui fait à la fin, qui fait, j'allais dire, par pure gratuité. Et moi, j'exprime cette gratuité quand il dit la congrégation, ce n'est pas une volonté, c'est un désir de la Sainte Vierge. Je trouve que, bon. Une chose qui m'a toujours étonné et qui, je pense, doit nous poser question, j'en ai souvent parlé, mais c'est le silence sur la fondation dans le manuscrit qui décrit les apparitions 1909, écrit vraisemblablement qui est de 1913, donc assez proche. Il n'en parle pas. Il ne parlera de Marie qui a demandé la fondation de la congrégation que vraiment dans ses rencontres avec le comte Bivert et son désir de faire quelque chose. Alors, pourquoi ? Un, je pense que c'est parce qu'il est impossible d'en parler en 1913. Un, parce que lui, il a beaucoup de mal déjà à parler, à dire, à laisser s'épanouir dans sa vie ce qu'il a dit. Vous vous souvenez que quand il arrive en 1910, pour la même célébration à Notre-Dame-de-Grès, il dit « Mon Dieu, j'ai rien fait, j'ai tout laissé en plan ». Il ne s'en est même pas parlé à lui-même, hein. Il est anéanti, il est choqué, etc. Donc il a du mal. Enfin, l'argument ne vaut pas complètement, puisqu'il fait quand même, il voit quand même la statue chez Meyer de Notre-Dame-des-Bois, puis il l'achète, et puis il achète le bois Guyotte, et puis en 1914, il grandit. Donc l'argument ne vaut pas complètement. Il y a un argument plus sociologique, parce que les temps ne sont pas favorables, et parce qu'il y a vraiment une incapacité à penser qu'on va fonder une congrégation. Donc est-ce que c'est vraiment une révélation ? C'est vraiment impensable, parce que toutes les congrégations ont été chassées de France. Le père Lamy, il ne se voit pas partir à l'étranger. Déjà, il y a les oblats de Saint-François de Sales qui lui disent « Vous pouvez venir chez nous quand vous voulez, ils sont réfugiés en Italie, hein, ça vous fera du bien, etc. » Et c'est impensable pour lui. Donc comment parler d'une congrégation à fonder ? Est-ce que c'est... Déjà, il a du mal à intégrer les choses, à penser... il pense que c'est vrai, mais en même temps, il se pose des questions, il est normal, hein. Et donc, il se dit, c'est pas possible, il ne peut pas rajouter ça, quoi. Hein. Alors, la question qui en suit, c'est quels événements, quel milieu porteur va permettre à laisser jaillir ce qu'il a reçu dans le fond de son cœur et à oser le mettre en œuvre, alors que toutes les conditions, on penserait, il est à la retraite, il est fatigué, il est aveugle, etc., ne lui permettent pas de le faire. Et je crois que, et je vais m'attarder avec vous là-dessus, je crois que quelque chose de vraiment comprendre, qui est très important de comprendre, c'est la rencontre avec les Maritains et tout le monde qui gravite autour des Maritains. Et donc on va passer un petit peu de temps simplement pour essayer de comprendre, parce que justement les Maritains sont vraiment un milieu de, entre guillemets, de nouvelle évangélisation. Qui sont les Maritains ? Jacques et Raïssa Maritain, c'est un jeune couple à la fin du 19e, hein, qui sont athées, socialistes, enfin républicains au moins, et qui font la rencontre d'un homme étonnant qui est Léon Blois, qui est un chrétien hors cadre. Hein, je ne sais pas, tu saurais sûrement mieux le définir que moi, mais qui tire sur tout ce qui bouge, sur tout ce qu'il voit, et qui a des intuitions assez fulgurantes, et qui vit très pauvrement et qui essaye de vivre une vie chrétienne hors cadre, mais voilà. Au début, mais après non. Bon. Hein? Bon, enfin, toujours est-il qu'auprès de ce, du couple des Blois, hein, et, enfin, de la famille Blois, ils vont se convertir, ils vont le recevoir le baptême à Montmartre dans au tout début des années 1900. Et Maritain va faire, Jacques Maritain donc, est un intellectuel, et il va faire la rencontre, il va se passionner un peu pour, il va rencontrer les Dominicains, et notamment le père Clérissac, et il va beaucoup étudier saint Thomas, et il va être à l'origine de ce qu'on a appelé le... enfin, dans une époque où il y avait un renouveau thomisme, il va représenter un aspect, et ce qui va être très intéressant, c'est qu'il va ouvrir ce monde au monde des intellectuels, parce que leur foyer, ils vivent avec la sœur de Vera, Vera, la sœur de Raïssa aussi, et ils vivent une vraie sorte de vie en communauté, un vrai foyer de vie spirituelle, autour duquel va tourner un certain nombre d'artistes, d'intellectuels, qu'ils vont faire rentrer, avec qui ils vont partager ce feu qui les habite, qu'ils vont appeler à vivre, à accéder à l'intelligence. Hein, ils disent l'intelligence a mis la foi dehors, mais on va mettre... enfin, c'est une phrase de Raïssa, je ne sais plus, mais je la citerai tout à l'heure. Hein, mais c'est vraiment remettre l'intelligence au service de la foi et dans cette vie profondément contemplative qui est de contempler la vérité et de vivre d'une charité brûlante et très forte. Ce qui les caractérise, c'est que leur foyer va devenir vraiment ce lieu de... ce lieu qui est très, très vivant, si vous voulez, ce lieu très, où les gens vont venir boire, où les gens vont venir se convertir, hein, il y aura beaucoup de baptêmes, d'artistes, etc., des grands noms, des qui ne nous disent rien non plus, mais c'est quand même, tourne autour de ce milieu, viendra Rouault, qu'est-ce que vous pouvez connaître, Cocteau, Guéon, Julien Green, et puis énormément de monde, des prêtres, hein, Stanislas Fumet, le père Zindel qui viendra même dans le cercle maritain quand il sera à Paris, Éric Satie, je ne sais pas s'il est venu, mais enfin, vous voyez, enfin, tout ce rayonnement absolument extraordinaire, avec beaucoup d'autres noms, enfin, c'est cité un peu, vous avez une liste de noms, mais qui n'est pas exhaustive, mais dans l'ouvrage du père Marie-Jo. dans le deuxième tome, à la page 388-391. Voilà. Et donc, je voulais pas... Et ce qui va être intéressant, c'est que ça va être vraiment un foyer, et il va y avoir autour de ce foyer maritain, un désir de beaucoup d'ecclésiastiques, mais aussi d'autres, et même des maritains eux-mêmes, vous le verrez dans quelque chose, un petit peu plus tard, quand je vous le dirai, de créer quelque chose, de créer une communauté, de créer une œuvre, pas tous ensemble, mais les uns les autres, etc. Et ça va être un foyer pour énormément de vocations, pour énormément d'essais de fondations, de faire des foyers de vie spirituelle qui vont briller et qui vont être des lieux sources dans le monde, dans un monde qui est jugé en état d'apostasie, dans un sens. Hein, déjà, vous voyez, on est déjà ici. Donc, c'est très intéressant. Alors, je voulais reprendre avec vous ici juste quelques figures, quelques rencontres, et puis la rencontre avec le père Lamy, un petit peu comment ça s'est passé. Je vous signale, si vous voulez lire un peu, ben, il y a les grandes amitiés qui sont très intéressantes parce que vous voyez justement toutes ces amitiés qui se sont liées avec des tas de gens. Vous avez un ouvrage très très intéressant de le journal de Raïssa Maritain qui est très bien, qui est parce qu'elle parle de sa vie intérieure et c'est vraiment quelqu'un qui a été appelé à une vie d'oraison profonde. Hein. On en reparlera aussi tout à l'heure. Moi j'ai pris pas mal de choses dans un petit ouvrage qui s'appelle Les Trois Maritains, hein, qui parle, qui d'habitude on parle de Jacques Maritain ou de Jacques et de Raïssa, et là qui parle un peu de l'ensemble des trois. Hein, le sous-titre c'est la présence de Vera dans le monde de Jacques et de Raïssa. Alors je les ai cherchés pour préparer, je les ai pas trouvés. Je me suis dit elles se sont réfugiées chez toi ou pas? Ah, parce que j'ai souvenir qu'elles étaient là, mais je ne les ai pas retrouvées.
Mais
oui, mais je les ai vues quand même, elles étaient dans la salle. Bon, enfin, bref. Alors, ben, on va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Il y a dans les grandes amitiés, il y a dans le journal de Raïssa, etc.
Je répertorie toutes les fois où Raïssa parle du dernier ami, vous pourrez vous l'envoyer.
Oui, mais voilà. Alors, moi, je voulais lire avec vous quelques pages des noms que l'on entend. qu'on a l'habitude de côtoyer. Juste, vous avez par exemple Charles Henrion, le père Henrion, parce qu'on parle beaucoup de lui, on a parlé un peu, père Lamy avec lui, est-ce qu'il... C'est vraiment des gens qui avaient le désir de fonder, de faire quelque chose, ou le prince Guica, auquel le père Lamy voulait s'associer, beaucoup de gens, parce qu'il y avait par exemple Jean-Pierre Alterman aussi. bon, alors d'une manière très... très noble, le père Lamy dit, bon, il a deux voies possibles, que ça peut être des prêtres séculiers ou religieux, mais je le soutiendrai dans les deux cas. Mais enfin, pour l'instant, qu'il ne s'engage pas, parce que pour l'heure, c'est pas encore là. Hein, je veux dire, d'une manière... Hein? Oui, il était diocèse de Paris. Et c'est vraiment ce milieu, si vous voulez, qui a été porteur, parce que les gens se convertissaient. Vous entendrez aussi, en passant dans les lectures, c'est dans le journal de Raïssa, le père Lamy dit qu'il aime les maritains, enfin, on appelle le cercle maritain, mais ce n'est pas juste le cercle, c'est vraiment toute cette amitié, toute cette communauté, j'allais dire, maritain, à cause de son esprit de liberté. Et ça, je pense que ça montre quelque chose, parce que le père Lamy... C'est un homme très classique, qu'on pourrait voir très, très vieux jeu dans un sens, dans ce qu'il dit quelquefois, etc. Un peu quelquefois comme le curé d'Ars, mais qui a un désir, une liberté intérieure, parce que ce qu'il faut, c'est mettre les gens en contact avec la Sainte Vierge, en contact avec Jésus, en contact avec une vie spirituelle. Et ce qui plaît chez les maritains, et ce qui plaît chez le père Lamy pour les maritains, ça va vraiment être cette liberté intérieure et ce désir de vivre de la vie théologale, et où il se trouve assez hors cadre d'ailleurs. Bien. Alors, pour le père Henrion, alors bon, il y a beaucoup de gens qui passent, hein, mais pour ce qui nous intéresse, voilà, je ne vais pas tout lire, j'ai un petit résumé ici. Donc, à 18 ans, c'est un jeune homme il n'est pas encore père donc, qui a perdu la foi. Il va connaître les maritains par Léon Blois, et il se convertit en lisant Claudel. Il devient tertiaire franciscain, il se retire chez lui et il se passionne pour les mystiques. Il connaît les maritains en 1913, il a une amitié très profonde avec les trois, secrète, qui va durer longtemps, même encore après la mort du père Lamy, et il se retire encore dans sa jeunesse, avant de les connaître, enfin il les connaît déjà, mais il se retire à Vittel, où il accompagne spirituellement Ève Lavallière, dans sa retraite. Ève Lavallière, c'était une grande actrice de théâtre, hein, de la Belle Époque, et qui s'est convertie, et qui avait devenu tertiaire franciscaine, et qui avait une vie intérieure très importante. Puis il est ordonné prêtre en 1925, Le père Lamy rencontre les maritains en 1921, le jeudi de Pâques 1921. Donc vous voyez, il connaît, il va le rencontrer, il n'est pas encore prêtre, etc. Et il a désir de vivre une vie contemplative très forte. Hein, il se fait ermite dans le désert tunisien. Mais enfin, il revient souvent à Paris parce qu'il ne supporte pas le chaud. Alors du coup, alors effectivement, il est souvent à Paris. Et il rencontre très souvent les maritains. Est-ce que je vous dis ici quelque chose? Non, je vais passer dessus. Une autre rencontre qui va être très... Oui, il a eu des projets un peu sur tout le monde, hein, mais ce n'était pas des projets encore avoués dans un sens. C'est ça, mais... Effectivement. Et alors, il a pas le père Kopf, qui est devenu dominicain après, etc. Enfin, plein de gens, parce que c'était un foyer à vocation là-dedans. Hein. Altermann, ça a été la même chose, etc. Voilà. Alors, le père Lamy, il est là. Mais ce qui est intéressant, c'est de piger, c'est au contact de cet esprit de vie contemplative, d'amitié forte, enfin, qui fait des liens avec les gens, de recherche de la vérité, c'est là où le père Lamy va repartir pour faire quelque chose, dans son mode, bien sûr, parce qu'on verra avec le prince Guika, c'est la même chose, mais bon, ça ne peut pas marcher ensemble, etc., puis c'est vraiment pas le même projet non plus, dans un sens aussi, hein, mais il va essayer de, comme tête chercheuse, et c'est là que renaît pour lui la possibilité, le désir de faire la vocation, parce que c'est les valeurs qui sont pour lui importantes. C'est les valeurs pour la congrégation qui sont importantes, parce que c'est là où il s'y reconnaît, même si la forme est très spéciale. Hein. Par exemple, les Maritains, ils n'ont jamais pensé, ils pensaient faire une œuvre de laïque, c'est vraiment quelque chose de forcément laïque. Le prince Guika voulait faire aussi une congrégation de laïcs, dans un sens. Hein. Ce n'est pas les mêmes structures, la même pensée de structure, mais l'esprit qui fait vivre ça, hein, et qui est vraiment cet esprit de nouvelle évangélisation, puisqu'il va chercher les gens qui sont au dehors, hein, qui va chercher. Et là où il se retrouve, bien sûr, ça va être dans l'amour de la Sainte Vierge, dans cet amour de cette présence de Dieu qui est très importante pour les Maritains. Je vous disais, Raïssa qui est une âme d'oraison très profonde, Jacques qui est vraiment cette recherche de la vérité, la contemplation de la vérité, etc. Hein. Mais donc, c'est là où ils vont se retrouver. Et c'est vraiment très important pour, je crois, pour comprendre la fondation. Bon, une chose, un petit excursus, si je n'étais pas qui je suis, je ne vous l'aurais pas dit, mais je pense que c'est très intéressant de voir aussi la filiation, le lien des Maritains avec le père Dehaut. Parce que le père Dehaut, donc, oncle, parrain, directeur spirituel du père Thomas, est devenu un prêtre très, 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 très proche des Maritains, hein, avec une place tout à fait spéciale. Je crois que le prêtre qui s'en occupait après leur baptême, etc., c'était le père Clérissac. Le père Clérissac est mort en 1914, et il se trouvait un petit peu orphelin. Hein, et l'année suivante, au mois de novembre 1915, eh bien, ils vont rencontrer à l'église Saint-Augustin le père Dehaut. Je vous lis quelques pages ici. J'ai choisi, j'aurais pu prendre dans différents, mais celui-ci, parce que ça présente d'une manière un peu nouvelle, et ça est assez intéressante, assez profonde, les pages qui sont dessus. Les Maritains et Vera étaient venus s'installer à Versailles pour se rapprocher du père Clérissac. Mais le départ de celui-ci, puis sa mort en novembre 1914, les laissèrent bientôt comme orphelins. Vers la fin de l'année suivante, Jacques rencontra pour la première fois le père Thomas Dehaut, venu écouter ses leçons à l'Institut catholique. Envoyé par le père Garrigou Lagrange, dont il était le maître, il devint bientôt leur guide spirituel à tous les trois. Raïssa avait beaucoup prié le père Clérissac de leur envoyer quelqu'un pour les guider dans la vie de prière. Et voici que leur arrivait cet autre dominicain, en qui s'unissait une géniale intelligence théologique et métaphysique et une profonde expérience spirituelle. Jacques dira que le premier fut un grand maître de la vie illuminative et le second de la vie unitive. Durant des années jusqu'à leur départ pour les États-Unis en 1939, tous les trois bénéficièrent des enseignements théologiques et des conseils spirituels du père Dehaut. Leur confesseur était l'abbé Millot, vicaire général du diocèse de Versailles, mais Vera avait gardé contact avec l'abbé Durantel, auquel elle se confessait de temps en temps. Le père de Haut a écrit Jacques, ne s'enveloppait pas seulement de châles et de couvertures, mais aussi de secrets. À moitié aveugle, il cheminait parmi les âmes comme un ami de Dieu chargé de les éveiller aux choses de leur père et dont il importait que les hommes sussent seulement qu'il était sans importance. Il nous avait interdit de parler de lui. J'avais pensé à lui pour le personnage de Théonas dans le livre ainsi intitulé, mais en me limitant à quelques traits superficiels et accessoires qui ne mettrait pas en péril son incognito. Ce que je retiens dedans, ce n'est pas l'aspect qu'on en parle folklorique ici du père Dehaut, c'est il cheminait parmi les âmes comme un ami de Dieu chargé de les éveiller aux choses de leur père. Et ça, c'est vraiment le travail du père Dehaut. Et c'est aussi, on pourrait dire la même chose avec le père Lamy, mais aux choses de leur mère. Je veux dire, avec cet aspect marial chez le père Lamy, mais voilà. Je continue. Jacques passait des heures à lui faire la lecture de Jean de Saint-Thomas, le grand interprète de Saint-Thomas d'Aquin, au XVIIe siècle, et à écouter ses commentaires. Et c'est grâce au Père de Haut que Raïssa et Vera, quant à elles, trouvèrent leur voie dans la vie spirituelle. Il conseillera à Raïssa de ne jamais résister à un appel intérieur au recueillement et de donner à Dieu tout le temps qu'il demanderait, à moins qu'elle en soit détournée par un devoir de charité ou quelque autre nécessité. Effectivement, elle donna à l'oraison toutes ses matinées et y trouva la paix. C'est le Père de Haut, dont je lis dans le journal, qui lui a demandé de prendre toutes ses matinées pour faire oraison. Et après, ça a débordé aussi sur l'après-midi. Vera ne reçut pas le même conseil, mais fut également orientée vers une union à Dieu faite d'abandon et de miséricorde, de tendre confiance en sa bonté et en même temps de présence fraternelle aux peines et aux besoins des hommes. Fidèle elle aussi à l'oraison, mais dans le mouvement incessant de la vie. Point. Jacques rapporte que le Père de Haut et Vera priaient longuement ensemble. Elle lui confiait tout. C'était le secret du roi. Nous avons entrevu plus tard de quelle intimité avec Jésus il s'agissait là. C'est Jacques Maritain qui parle. Fin de la citation. Non seulement Vera, dans la compassion affectueuse envers tous qui faisait le fond de son attitude spirituelle, montrait une capacité toute spontanée à accueillir les personnes et à se charger des fardeaux du prochain. Elle savait deviner lorsqu'une personne était déprimée ou dans l'épreuve, et elle en prenait soin avec naturel, quelle qu'elle fût. Il arriva même que dans des moments difficiles pour leur père spirituel, lui-même trouva auprès d'elle paix et réconfort. Une toute singulière et entière confiance s'était établie entre eux, comme l'attestent leurs prières communes et leurs longs entretiens spirituels. Le Père de Haut avait en Vera une confiance spéciale et Raïssa écrivait un jour à sa sœur « Toi qui conseilles même le Père ». De leur correspondance qui aurait pu nous éclairer sur bien des choses, il n'est rien resté car Vera a tout détruit. Elle a pourtant conservé une note datée de 1917. Bon, je vais vous faire la grâce de la suite, vous pourrez aller voir. Mais qui parle de l'esprit d'abandon finalement, hein, d'abandon à la grâce. Sous la direction du Père de Haut se confirmèrent les orientations qui leur étaient apparues pour tous les trois après le baptême et qui s'inscrivirent encore plus profondément dans leur vie et dans leur maison. Toujours plus nous acquérons la conviction que l'unique but de notre vie est la contemplation, écrivit Jacques à Don de Prunier le 29 juin 1919. Donc vous voyez, ici c'est très intéressant parce que c'est vraiment cette recherche de le terreau où va se trouver, qui va réveiller les choses chez le Père Lamy, où ils vont se trouver vraiment de plein pied, même si ce n'est pas de la même personnalité, mais c'est vraiment cette recherche de la vérité, c'est vraiment cet esprit de prière et cet esprit de charité qui s'est, enfin ici mis par Vera, qui s'est découvrir, qui s'est écouter finalement profondément les gens qui sont dans l'épreuve, etc., de cet esprit d'accompagnement, si on pouvait dire. Vous avez ici après un petit passage sur une protection spéciale de Marie. Et là, c'est très intéressant parce que pourquoi le Père Lamy parle de la salette dans les manuscrits du Comte Vivert, simplement parce que cette salette était une découverte de la Sainte Vierge par les Maritains. Donc il y a toute une polémique autour de la salette. Alors le Comte Vivert le pousse pour parler et dire qu'est-ce que vous en pensez. La même chose sur Saint-Louis-Marie de Montfort. C'est très intéressant parce que sur Saint-Louis-Marie de Montfort, quand vous lisez les manuscrits, vous dites le Père Lamy, il n'a pas l'air de trop aimer Saint-Louis-Marie de Montfort. En fait, il n'en est rien. Frère Marie-Joseph a bien établi ça dans son travail. Mais la difficulté, c'est que le comte Vivert, qui est un peu apparitionniste, si vous voulez, ce qui l'intéresse, c'est les apparitions au sens de comment c'est concrètement, et puis aussi des révélations un peu de la fin des temps, etc. Donc sur le thème des apôtres des derniers temps. Et le Père Lamy s'est toujours refusé à dire que nous étions l'incarnation des apôtres des derniers temps, au sens un peu apocalyptique. Et du coup, il met un frein, mais c'est juste sur ce sujet, c'est pas sur l'amour à Marie, au contraire. Et alors, juste après cet aspect marial, il y a ici la description de la rencontre avec le Père Lamy, qui va faire un peu la synthèse donc, que nous propose frère Charles. En relevant dans son journal les événements survenus en avril 1921, Raïssa écrit « Nous avons fait la connaissance du Saint-Curé de la Courneuve, l'abbé Lamy. C'est le docteur Vatton qui nous l'a amené le jeudi de Pâques 1921. Enfin, Marie-Joseph n'a pas trouvé, moi non plus, qui était ce docteur Vatton. Entrait ainsi dans leur vie un prêtre extraordinaire que Jacques inscrirait bien des années plus tard sur la liste de ceux auxquels notre gratitude se porte d'une manière absolument éminente, comme à des saints que le ciel a mis sur notre route ici-bas pour assister de leur charité le plus intime de nous-mêmes et pour combler nos âmes de leurs bienfaits. C'est dit du Père Lamy, c'est dit du Père de Haut, c'est dit d'énormément de monde, mais vous voyez, c'est ça qui résonne. Hein, c'est vraiment cette rencontre avec le Christ. C'est des instruments de la rencontre du Christ. Donc, vous voyez, la recherche de la vérité, de la charité, de la vie intérieure, et de cette vie intérieure qui est une rencontre, de cette dimension contemplative de la vie intérieure. Même si le Père Lamy se dit aussi, moi je ne suis pas un contemplatif, si on le met un peu sur les... si on veut lui faire lire des traités, enfin le Comte Bivère essaye le jour de dire, mais la spiritualité, oh non, non, moi c'est tout simple, je dis mon chapelet, quoi, etc. Hein, on empêche qu'il y ait la division, etc. Bon. Et voilà. Le docteur Vatton, qui l'accompagnait, fréquentait les réunions d'études qui se tenaient régulièrement chez les Maritains. À ce moment-là, Raïssa était une fois de plus touchée par la maladie. Elle venait de subir de nombreux examens dans l'éventualité d'une opération qui, à l'époque, présentait de graves risques. Le père Lamy, dans la voiture qui le ramenait, après qu'il ait passé l'après-midi avec les Maritains, avait dit... Oui, il ne va pas seulement à la réunion, il passe l'après-midi chez eux. Il avait dit au docteur Vatton, lentement et sur un ton très affirmatif, « J'espère qu'elle se remettra bientôt. » Par la suite, il a répété plusieurs fois à Jacques et à Vera qu'il avait eu le sentiment très fort, très net que Raïssa guérirait et qu'elle ferait de grands voyages. Pareilles affirmations semblaient alors complètement improbables, mais le prêtre avait des dons particuliers d'intelligence et de prophétie, et en toute simplicité, il entretenait avec bonhomie des relations familières avec les réalités surnaturelles. Alors une description... Son allure était celle d'un curé de campagne, du temps... Bon. Les Maritains firent sa connaissance alors qu'il était, depuis plusieurs années déjà, curé de la Courneuve, et c'est ainsi qu'ils devaient l'appeler le Saint-Curé de la Courneuve. Il était né en 1953. Ça, c'est le passage de sa vie. Et je vais vous lire un peu, justement, comment on se demande souvent comment il était perçu dans ce milieu. J'avais préparé la page. Voilà. Alors bon, ils se rencontrent, il va chez eux, Jacques Maritain va le voir à la Courneuve de temps en temps, c'est pas très fréquent, mais quand même. Voilà. Et puis ils vont aller en pèlerinage à la Trente des Bois, en 22. Je vous rends un petit passage du journal de Raïssa en 23. Ça montre un peu le père Lamy. « 9 janvier 1923, Jacques va voir le Saint-Curé. Celui-ci dit qu'il aime les cercles thomistes à cause de leur esprit de liberté. C'est cela qu'il faut, dit-il. C'est ainsi qu'il faut grouper les âmes. » Vous voyez ? Il faut grouper les âmes. C'est le père Lamy. Jacques lui dit deux mots de Miss V. Je ne sais pas qui c'est celle-là, mais c'est pas grave. Lundi 15... Non, c'est une Miss extérieure. Elle doit être une Anglaise, parce que vous avez appelé Miss... Bon, américaine. Le 15 janvier, l'abbé Lamy et moi chez Miss V. J'arrive la première. Je la vois seule quelque temps. Elle me dit que les cercles thomistes sont une œuvre très importante qu'il faut travailler à étendre, que Jacques devrait s'occuper des Japonais et des autres étudiants qui se joindront à eux dans son œuvre, en ce qui concerne les études philosophiques. Elle me dit aussi que nous devons travailler avec elle, avoir une maison à nous, avec quelques chambres disponibles. Arrive le Saint-Curé, puis Jacques. Le Saint-Curé et Miss V s'entretiennent seuls quelques instants. Il est d'accord avec Miss V sur l'œuvre de notre Seigneur, dont notre Seigneur l'a chargé. Il ne s'agit pas d'un institut religieux, mais il s'agit de former des foyers d'intense vie chrétienne. Et, disait le Saint-Curé, de tels foyers se multiplieront et finiront par embraser le monde. C'est pour préparer les apôtres pour les derniers temps. Là, il n'est pas avec le compte d'hiver, donc il peut le dire.
C'est une glose du compte d'hiver.
De quoi? Non, non, ça c'est...
C'est une glose de Raïssa ou c'est Perlamir?
Alors, elle met entre guillemets, de tels foyers se multiplieront et finiront pour embraser le monde. Fermez les guillemets. Point virgule, c'est pour préparer les apôtres des derniers temps. Elle ne le cite pas comme parole de lui. Mais c'est dans le milieu, quoi, quand même. Ah bon. Voilà. Et puis, je vais vous lire aussi ce petit entretien que vous avez sûrement lu. Oui, ça, c'est, je vous ai cité ça tout à l'heure. C'est la rencontre avec le père Garrigou Lagrange. Ah, ça s'en vaut mille. Un dîner. Ah, je suis désolé. Non, mais c'est préparé, mais le papier s'est glissé. Mais comme c'est souligné, je devrais retrouver sa fille. Retrouver ça vite, mais oh ben bon, c'est non, faut vraiment que je vous le retrouve. Mais ça va être cité ici, peut-être. Ce qui est cité, voilà, je cite ici, c'est pas grave. La simplicité, les histoires apparemment ingénues, les manières de bon curé de campagne, la foi tendre mais de granit de Père Lamy se trouvaient naturellement à leur place dans l'atmosphère qui régnait dans la maison des Maritains. Nombre de leurs amis devinrent aussi les siens. Henri Guéon l'écoutait en pleurant. Jean Hugo alla le trouver un jour et en reçut une bénédiction qui le toucha au cœur. Et le bon curé, à l'invitation des Maritains, rendit visite à Satie, gravement malade, en lui donnant solennellement la bénédiction de la Sainte Vierge. Le père Garrigou Lagrange, lui-même, d'abord un peu méfiant, se laissa prendre par l'émotion en l'entendant parler de l'amour du Seigneur et de la Sainte Vierge durant les réunions de chez les Maritains. Citation du journal de Raïssa. Une majesté incomparable le revêtait, non c'est de Jacques, pardon, une majesté incomparable le revêtait quand il parlait de notre Seigneur et de la Sainte Vierge et des mystères de la grâce et avant tout du sacerdoce, de ce que le Christ est pour ses prêtres, de ce qu'il leur donne et de ce qu'il attend d'eux. Il avait dans sa présence une force candide et lumineuse qu'il ne pouvait laisser indifférent. C'est intéressant parce que c'est redit dans le passage en entier. Vraiment, c'est le père Garrigou Lagrange qui regarde, c'est quoi ce tu luberlu, qui dit un peu n'importe quoi, etc. Et puis se laisse prendre par l'émotion et de rentrer dans l'amitié, etc. Voilà. Vous avez ensuite bon, l'épisode avec Maritain, avec Vladimir Guica. Alors, pour finir avec les Maritains, avant une petite conclusion qu'on fera avec une petite récréation, mais qui ne sera pas longue, la petite conclusion. Je voulais vous lire aussi, c'est quelque chose qui vient un petit peu après, mais je pense que ça aide beaucoup à comprendre ce qui se passait en 1931 chez les Maritains, et ça reprend un peu c'est cette grande question, mais bon, nous vivons, on est un peu épuisés, quelle est notre vocation profonde? Est-ce qu'il ne faut pas confondre, ça c'était l'idée de, c'est l'idée plus d'amis, et notamment du père Henrion, est-ce qu'il ne faut pas faire des sortes de petits ashrams chrétiens, hein, c'est-à-dire avoir une maison, une petite retraite, où on puisse avoir du temps, et ne pas être pris dans la bousculade dans notre vie, est-ce qu'il ne faut pas qu'on se retire plus, hein, et accueillir, et avoir une vie plus paisible, plus tranquille, etc. Alors du coup, on leur propose une maison, etc., et lorsqu'arriva de manière inattendue l'héritage de Pierre Villard, qui léguait à Jacques une partie de son patrimoine pour qu'il serve à une œuvre de renaissance de valeurs spirituelles et religieuses en France, celui-ci comprit que cela pourrait se faire non seulement à travers son travail philosophique personnel, mais également par une action sur les âmes exercée grâce à quelques centres de rayonnement spirituel. Ce centre fut la maison de Meudon avec sa chapelle, où s'accomplit, grâce à eux trois, cette œuvre de rayonnement. Rencontres et circonstances avaient peu à peu confirmé, orienté le projet, etc. Enfin, c'est tout ce qui se passe. Et donc, Donc ils se demandent vraiment qu'est-ce qu'il faut faire, et puis ils vont consulter. Hein, ils avaient beaucoup, beaucoup de relations, notamment chez les Chartreux. Il y a l'ancien Chartreux de la Val-Sainte, Perabille, dont Miège, qui était nommé en Italie. Donc ils sont allés le voir et qui leur dit cela. Raïssa note à ses propos de ces conversations. Dom Miège a été d'une netteté absolue. Ce sont des chaînes que notre Seigneur vous a données. Il faut baiser vos chaînes, être surmené et dévoré jusqu'au bout, dans la prière. Exemple du père Liberman. Ne pas songer à changer votre vie, à quitter votre poste. Il est trop opposé à l'idée de l'ashram. Ne vous liez avec personne. Aimez vos croix. Alors, ça marche pas directement. Bon, ils ont enregistré, mais c'est comme ça que ça va se passer. Hein. Mais il y a un peu ce désir, cette fatigue, etc. Ce temps de changer. Mais c'est vraiment, vous voyez, ce sens de centre spirituel où on va pouvoir consacrer le temps aux âmes. Et qui est vraiment un peu de cette... Vraiment, c'est un peu quelque chose de précurseur un peu de la nouvelle évangélisation. C'est aussi ce qui attire, voyez, le Père Lamy, là aussi où il se révèle. Et donc, je pense que c'est des valeurs qui sont menées, qui sont des valeurs qui sont aussi des valeurs du Père Lamy, qu'il fait suivant sa grâce, suivant ce qu'il est, mais qui est la congrégation, c'est vraiment quelque chose qui est mis pour, hein, dans ce désir, de ces désirs d'une liberté pour inviter la liberté intérieure des gens à suivre Jésus, à le découvrir.